Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Heureux d'être à nouveau en votre compagnie pour cet autre numéro d'Economia qui s'intéresse aujourd'hui à la notation financière, notation opérée par des agents spécialisés qui évaluent les risques d'investissement dans un pays tiers. Nous parlerons avec Faustin Onozon dans la rubrique Regard sur la gestion de l'économie nationale de la valeur de la notation de la Côte d'Ivoire par l'agence Fitch et qui, dans le mois de février 2023, a attribué la note BB- à la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que cela signifie? On en parle dans moins de 5 minutes. Avant cela, explication de certains termes dans le lexique économique, à ne pas surtout oublier les tendances de la bourse vers la fin de ce numéro. Bienvenue à tous.
Le lexique économique.
La solvabilité financière d'une entreprise ou d'un État.
La solvabilité d'une entreprise ou d'un État, c'est sa capacité à rembourser à court ou à long terme ses dettes auprès des banques, de ses fournisseurs ou encore d'un partenaire au développement.
La notation financière.
La notation financière consiste à évaluer la solvabilité d'un emprunteur qui peut être un pays ou une entreprise, ou plus largement les risques liés aux actifs financiers, qu'il s'agisse d'actions, d'emprunts ou encore de l'endettement d'un État. La notation financière apporte aux investisseurs des éléments d'information dont ils ont besoin avant d'investir.
Vulnérabilité économique d'une entreprise ou d'un pays.
La vulnérabilité économique d'une entreprise ou d'un pays peut être définie comme la probabilité que le développement économique d'un pays puisse être entravé par des chocs exogènes imprévus. Et ces chocs extérieurs imprévus peuvent être sécuritaires, énergétiques ou bien d'autres aspects.
Le défaut de paiement d'un pays.
Un État est en situation de défaut de paiement lorsqu'il ne peut plus payer ce qu'il doit à ses créanciers, qu'il s'agisse du capital emprunté ou de ses intérêts. Lorsqu'un État fait défaut, on parle de défaut souverain.
Regard sur la gestion économique nationale.
Monsieur Onozon, bonjour.
Bonjour, monsieur Koumé.
L'agence Fitch attribue la note BB- à la Côte d'Ivoire, en tout cas en date de février dernier. Alors, pour commencer, la notation financière, quel est son rôle?
La notation financière a pour objectif de mettre l'accent sur tout ce qui est solvabilité financière d'une entreprise ou d'un emprunteur. L'emprunteur peut être l'entreprise ou bien un État.
Et quel est le rôle de ces agences-là, qu'on appelle l'agence de notation? On en a des agences assez célèbres, hein, Fitch and Moody's, hein, également Standard & Poor's et bien d'autres agences internationales de notation. On a aussi une agence africaine, Bloomfield Corporation. Quel est véritablement le rôle de ces agences de notation?
Ces agences ont pour rôle de donner une note. Une note qui est importante au niveau des investisseurs dans le choix de différents supports financiers. Si vous voulez, par exemple, bénéficier d'un prêt auprès d'investisseurs bien connus, il vous faut une notation financière. Et c'est par le biais de cette notation financière, cette note-là, que vont donner ces agences de notation financière, que l'investisseur va se prononcer. Voilà, selon donc la notation que vous allez avoir, parce qu'il y a plusieurs types de notations.
Oui, je vois deux fois des lettres B, A, est-ce que vous pouvez nous donner la palette de notations?
En fait, ce sont des notations qui expriment des risques d'insolvabilité. C'est-à-dire, il y a une insolvabilité plus faible, très faible, faible. Et selon qu'on est dans telle ou telle structure de notation, disons que chaque structure a ses propres règles. Mais toujours est-il que ce sont les mêmes éléments qui interviennent. Dans Standard & Poor's, par exemple, comme Moody's, comme Fitch, le AAA met l'accent sur le risque d'insolvabilité qui est plus faible. Et lorsque vous obtenez la note A, par exemple, vous êtes dans un risque d'insolvabilité qui est encore très faible. Et lorsque vous obtenez la note tout simplement A, c'est que vous êtes dans un risque d'insolvabilité qui est faible. Et puis après, on passe aux notes B. Le B, lui, il met l'accent sur aussi les risques d'insolvabilité faibles, mais qui peut être affecté en cas de certaines conditions économiques défavorables. Et puis, il y a le BB qui met l'accent sur tout ce qui est vulnérabilité élevée. Et puis, il y a le B qui met l'accent sur des risques d'insolvabilité très significatifs. Et puis, enfin, il y a le CCC qui met l'accent sur l'éventualité d'une une défaillance chronique, j'allais dire.
Alors, voilà. Monsieur Faustin Onozon, en quoi il est important pour un pays de se faire évaluer justement par ces agences de notation financière?
Parce que la notation financière en elle-même, vous savez qu'on l'appelle aussi rating, c'est un indicateur qui permet aux investisseurs d'évaluer tout ce qui est santé financière d'un pays ou d'une entreprise. Voilà, lorsque vous émettez par exemple des titres financiers, il faudrait qu'on sache si votre pays peut ne pas être en défaut des paiements. Si le pays est susceptible de rembourser ses titres financiers lorsque ces titres vont arriver à échéance. Voilà, et donc il faut nécessairement passer par une agence de notation financière. C'est elle qui dira votre degré de solvabilité. Si vous êtes susceptible d'effectuer des remboursements de votre dette.
On peut considérer ça comme une sorte de garantie de ces agences-là par rapport à une situation donnée en relation avec un pays, n'est-ce pas?
Non, pas une garantie en tant que telle. En fait, c'est une note qu'on donne et il appartient, disons, aux investisseurs d'apprécier. C'est une sorte d'appréciation qu'on donne dans le domaine purement et simplement financier. Mais la garantie suppose que, pour un pays par exemple, que ces structures-là sont susceptibles, dans le cadre d'une création monétaire par exemple, de garantir cette création par des devises étrangères. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit plutôt de donner une note en fonction des différents paramètres macroéconomiques dont dispose un pays.
Alors, vous avez donné la palette donc de notations que les agences ont justement pour attribuer l'évaluation de la performance financière d'un pays. Alors, cela se repose sur quoi? Comment ces agences procèdent à ces évaluations?
Il y a des paramètres. Pour une entreprise, par exemple, on essaie de mettre l'accent sur tout ce qui est capitaux propres et tout ce qui est, par exemple, dette à court, à moyen et à long terme. On essaie de voir si, par exemple, l'entreprise elle-même est susceptible, par le biais de ses capitaux propres, de rembourser ses dettes à court terme, par exemple. Dès lors où elle ne peut pas le faire, c'est que tôt ou tard, il y aura un défaut de paiement au niveau de cette entreprise. Mais pour l'État, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte. Et la première des choses qu'il faut savoir, c'est de mettre l'accent sur la variation positive de la production nationale. Est-ce que, en s'endettant, l'endettement, c'est l'investissement, c'est le capital. Est-ce que, en allant chercher un endettement, en allant s'endetter ailleurs, à l'étranger par exemple, ou auprès des banques et établissements financiers, est-ce qu'on serait susceptible de ne pas être à défaut des paiements? Voilà. Ce sont ces différents paramètres qui concernent l'évolution de la consommation, de la dette elle-même sur l'investissement, et puis du sort du commerce extérieur. Est-ce que ces différents paramètres peuvent dégager une variation positive? C'est ce qu'on appelle la variation positive de la production nationale. Dès lors où on ne peut pas atteindre ces objectifs macroéconomiques, il va sans dire que tôt ou tard, vous serez à défaut de paiement. Parce que si vous ne pouvez pas réaliser une épargne vis-à-vis de l'étranger, ça veut dire que vous n'aurez pas les devises nécessaires pour la dette que vous avez dû contracter. Donc, c'est autant d'éléments importants dans le cadre de la gestion d'une notation financière.
Alors, M. Faustin Onozon, justement, la Côte d'Ivoire, concernant l'agence Fitch, a une note BB-. Qu'est-ce que cela veut dire et les conséquences, justement, pour notre pays?
Oui, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. On a donné les différentes notations. On a dit aussi la signification de ces différentes notations. On a dit qu'on partait, par exemple, d'une notation AAA jusqu'à la toute dernière, qui est la notation CCC. Alors, lorsqu'on passe à BB, on est à un niveau où il y a une vulnérabilité évidente qu'il faut certainement chercher à gérer au mieux. Voilà, pour pouvoir, à mon sens, avoir une gestion, j'allais dire, harmonieuse du niveau de la production nationale. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est la gestion de la production nationale, c'est le PIB. Plus vous avez un PIB élevé, plus vous pouvez élever le niveau de votre dette. Donc, dès lors où on parle de vulnérabilité effective, évidente ou possible, bon, cela ne veut pas dire qu'il y a déjà un risque d'insolvabilité significatif, non. Mais on peut, dans tous les cas, avoir une possibilité de s'endetter de la manière la plus cohérente qui soit.
Autrement dit, quand nous parlons d'une vulnérabilité d'une économie, que comprendre?
Vous savez qu'actuellement, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, mais toutes les économies du monde traverse une situation difficile. Vous savez que l'inflation va à une allure très galopante, ce qui entraîne au niveau de chaque pays des difficultés. Voilà, des difficultés en matière même de gestion de ce qu'on a comme aptitude financière. Et au niveau des différents pays, il y a pas mal de dépréciations monétaires auxquelles on fait face. Donc, tous les pays du monde aujourd'hui sont plus ou moins vulnérables à ce genre d'informations financières. Mais cela ne veut pas dire que ces pays-là ne sont pas des pays qui sont cohérents. La Côte d'Ivoire bénéficie aujourd'hui d'une variation positive de sa production nationale. Tous les paramètres macroéconomiques sont au beau fixe. Et je ne crois pas un seul instant qu'il y ait une vulnérabilité très, très, très prononcée. Mais cela peut se faire si on y prend garde.
Ah oui, bon, c'est vrai. Vous avez dit que des signaux sont au vert. Mais cette note, est-ce qu'on peut la considérer comme un avertissement à rectifier le tir?
Bon, un avertissement, c'est trop dire parce qu'on n'est pas quand même en défaut de paiement en Côte d'Ivoire. On a toutes les aptitudes pour avoir une économie robuste et pour être cohérente. La seule chose que nous devons faire, c'est certainement mettre l'accent sur tous les paramètres macroéconomiques et faire en sorte que nous puissions bénéficier d'investissements probants pour entraîner une variation positive de la consommation et elle aussi qui pourra nous permettre d'entraîner une variation positive du sort du commerce extérieur. Ce sont ces différents paramètres macroéconomiques que nous devons cultiver davantage. C'est ce que cela veut dire.
C'est ce que cela veut dire. Alors justement, devons-nous considérer ça comme une suggestion d'action avec cette note-là, attribuée donc par Fitch à la Côte d'Ivoire. Justement, quelles sont les actions prioritaires selon vous à mener pour améliorer sa note?
Oui, c'est ce que je viens de dire. D'abord, on n'est pas en défaut des paiements et les perspectives économiques et financières sont bonnes pour ce qui est de la Côte d'Ivoire. On a un taux de croissance qui est très probant. Ce qu'il faut faire, c'est maintenir le rythme, à mon sens. Faire en sorte qu'on bénéficie encore d'investissements assez importants pour poursuivre notre croissance. Et plus on investit, plus on donne un sens beaucoup plus effectif à la demande globale, c'est-à-dire la consommation et l'investissement. Et c'est cette demande globale qui nécessairement entraîne une variation positive du solde du commerce extérieur qui, lui aussi, a un impact positif sur la variation du taux de croissance macroéconomique, en d'autres termes du PIB. Voilà, donc je pense que ce qu'on a commencé, on devait le poursuivre. Et on devait le poursuivre, on devait aller encore un peu plus loin. Et je pense qu'on a une économie qui est dynamique. Et ce dynamisme-là devrait nous profiter. Et ce qui se passe actuellement là, moi je considère ça comme quelques petits incidents de parcours qui ne dépendent pas de nous, mais qui dépendent du monde entier, qui dépendent de ce qui se passe des politiques économiques et financières au niveau du monde entier.
Monsieur Faustin Onozon, je vous remercie.
Je vous en prie.
Tendance de la bourse.
Nous avons l'occasion chaque semaine de recevoir M. Kouaou Brice pour nous éclairer sur comment investir en bourse. C'est dans le cadre des tendances de la bourse avec lui. M. Kouaou, bonjour.
Bonjour M. Koumi, bonjour à tous les auditeurs.
Heureux de vous retrouver encore une fois. La semaine passée, pour ceux qui nous ont suivis, vous faisiez une comparaison entre, par exemple, l'investissement en bourse, l'épargne dans les banques, également dans les assurances. Alors, on va répréciser notre idée. Justement, on se rend compte que mettre l'argent, par exemple, en banque, nous génère des intérêts, 3% en moyenne, en fonction bien sûr des structures bancaires. En assurance, on a aussi, en fonction des polices d'assurance, une rétribution si on a des cas de sinistre. Et puis, la bourse, vous avez parlé de 9% par là. Évidemment, si on veut comparer les chiffres, on est plus tenté à dire que la bourse est intéressante. Mais la question que nous vous posons, est-ce qu'il y a des risques ou non? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il est plus risqué que le taux est un peu plus élevé?
Bon, déjà, ce n'est pas pour cette raison-là, mais je vais répondre par le début. Oui, il y a des risques, mais en fait, il y a des risques dans toute activité humaine. Vivre même, c'est risqué. Donc, il faut aussi que les francophones fassent la paix sur cette histoire du risque-là. Mais il faut vraiment qu'on comprenne que là où se trouvent les opportunités, se trouve aussi un certain niveau de risque. Donc, quand on veut occulter complètement le risque, on prend le risque, justement, d'occulter aussi complètement les opportunités. Donc, il faut aussi qu'on regarde ça objectivement. Pour revenir au cas de la bourse, quand on a fait la semaine passée la comparaison banque, bourse, assurance, ce n'était pas pour rediriger tout le monde vers la bourse. Ce n'était pas dans cet esprit-là. C'est pour vous montrer un peu comme quand l'EVA est venu. L'idéal, vous avez compris, n'aurait pas été pour les planteurs de cacao de couper le cacaoyer pour faire de l'EVA. Même si certains l'ont fait à tort. C'est de dire, j'ai une culture qui me rapporte deux fois par an et j'ai une culture qui rapporte chaque mois. J'ai une culture qui est comme des arbres qu'on ne doit pas entretenir et une autre. Chaque fois, on parle des shoulder and shoot qui vient nous fatiguer. Est-ce que je n'aurais pas diversifié mes cultures de sorte à obtenir un meilleur rapport? C'est un peu ça. Aujourd'hui, on a des gens qui ont de l'argent qui ne savent pas dans quoi investir.
Déjà, sans aller
aller dans des aspects techniques. Pourquoi, selon vous, les citoyens ont cette crainte de l'inconnu, surtout dans des investissements?
Bon, il y a des dimensions culturelles déjà. On est francophone et si vous étudiez bien les Français et les Anglais, vous verrez clairement cette différence-là. Donc, on a hérité un peu de ça. Et puis, on a hérité d'un pays où pendant longtemps, il y avait une culture de sécurité dans le travail avec le père fondateur de la nation. Les gens n'avaient pas besoin de prendre des risques pour retomber sur le pied. Donc, on n'a pas cette habitude-là. Autour de nous, par contre, c'est très différent. Les gens ont vécu dans des conditions plus difficiles. Ils ont appris à émigrer. Ils ont appris à mettre en place des activités. Donc, ils n'ont pas la même représentation des choses que nous. Aujourd'hui, notre contexte a changé. Et c'est pour ça que les gens prennent conscience qu'il faut qu'ils fassent un peu plus que se cantonner d'un travail et d'un salaire et se plaignent après de l'employeur. Donc, les gens sont plus ouverts à la prise de risque. On l'a vu avec l'agro-business, les maisons de déplacement. Et c'est pour ça qu'on vient aujourd'hui leur dire, vous êtes dans une meilleure disposition mentale. Nous, on vient avec une formation et un domaine qui peut, à notre avis, vous permettre d'avoir cette meilleure rentabilité que vous cherchez là, avec des risques plus réduits que les activités qu'on a citées tantôt.
Vous voyez, une formation, on va repréciser que vous faites chaque mois pratiquement une formation pour affiner un peu tout ce que peut-être les auditeurs écoutent.
Hein. Voilà, au-delà de ce que nous apprenons à la radio, dans les articles, tout ce que nous vous partageons tourne autour de l'initiation. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Combien ça coûte? Qu'est-ce que ça rapporte? Pour ouvrir l'esprit des gens, nous estimons que vous avez le droit de savoir ça et de le savoir gratuitement. Par la suite, ceux qui parmi vous aiment ce qu'ils ont entendu viennent pour en savoir plus, notamment sur les aspects liés au comment. Donc, comment investir concrètement? Comment choisir une action? Comment passer une note de bourse? Comment les encaissements se font? Donc, c'est un peu une formation en deux temps.
Alors, justement, on va revenir à notre sujet. On était en train de faire des comparaisons entre ces manières d'investir ou d'épargner. Alors, on a de l'argent en compte. Généralement, il est conseillé à chaque travailleur d'épargner quelque chose. Mais quand on épargne, hein, c'est un moment qu'on a quand même une certaine surface financière. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Bon, déjà, comme je le disais, chaque système a sa fonction. Donc, à la base, on travaille. On l'a dit dans la première émission, on a un revenu, on consomme une partie, on met une partie en réserve. Donc ça, c'est l'élément de base, le capital. Il faut s'interroger à quelle étape on se situe pour voir quel système nous devons utiliser pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. Si on est à une phase d'investissement qui peut impliquer de prendre un prêt, on va regarder quel est le système qui donne des prêts. La bourse ne donne pas de prêts. L'assurance n'a pas pour vocation de donner des prêts. Donc on va se retrouver vers le système bancaire, on va épargner un compte normal et on va demander un crédit normal, qu'on dit crédit consommateur. Tout ça ordinairement. Donc pour quelqu'un qui a en tête de faire des projets qui nécessitent du capital, il peut effectivement s'appuyer sur le système bancaire, c'est tout à fait fondé. Quelqu'un qui a une logique plutôt de prévoyance, j'ai commencé à travailler, mon père est un peu âgé, je crains qu'il ne meure et que ça ne mélange toutes mes finances, il va souscrire en plus de l'épargne classique à des plans d'assurance, par exemple d'essai. La bourse ne fait pas de l'assurance d'essai, donc c'est une logique de prévoyance. J'ai pris juste un exemple, il y a d'autres cas de prévoyance, la maladie et tout ça. Mais on peut aussi être à un stade où on a des capitaux qu'on veut fructifier. Je prendrai juste deux cas. Un fonctionnaire qui récupère un rappel et puis quelqu'un qui a travaillé depuis 5 ans, qui était chez ses parents, qui maintenant va aménager, mais il lui reste toujours quand même l'épargne de 5 ans, comme on le dit en Côte d'Ivoire, de quelqu'un qui vivait au gratuit. Ces deux personnes-là sont jeunes, moi je suis dans la trentaine, j'ai du capital épargné sur des années. L'idée c'est de faire fructifier ce capital-là pour générer des compléments de revenus qui vont m'aider dans la vie courante. Donc pour faire fructifier, nous venons avec une réponse en disant le système le plus approprié c'est le marché financier. Parce qu'avec le système des marchés financier, comme on l'a vu, vous avez des taux de 9%, des taux de 10%, ça c'est au niveau du rendement, et vous avez la possibilité de faire croître le capital. Vous avez les deux phénomènes à la fois. Donc moi je dirais déjà quelqu'un qui a de l'argent n'a pas à aller systématiquement en bourse, il doit réfléchir à quel niveau il se situe dans sa vie. Quand on évoquait le problème des revenus, je ne l'ai peut-être pas signifié, mais on peut avoir des dividendes de 1 million, 2 millions par an. On a des cas à l'EDB, 1 million 8 et puis 2 millions de dividendes par an.
Fonction de la mise aussi. Hein.
Oui, mais ils ont épargné en fait dans le temps. Le monsieur dont je parle de 2 millions, c'est un professeur d'université. Donc il épargnait tout au long de sa carrière tranquillement. Et l'autre, il a hérité du portefeuille de son père qui était à ses niveaux. Et puis il a continué, je crois qu'il doit être dans la trentaine, il a continué à mettre de l'argent. Donc aujourd'hui, quand on a ce temps-là de placer cet argent-là, il peut nous revenir sous la forme 1,8 million, 2 millions par an. 1,8 million par an, pour vous donner une idée, ça fait 150 000 par mois. C'est vrai qu'on ne peut pas vivre de 150 000 francs par mois, mais c'est un vrai complément de revenus, je pense.
Vrai complément de revenus, hein, c'est dire que, voilà, il y a des exemples concrets. On est tout heureux que M. Kouaou nous donne ces exemples-là pour dire que ce n'est pas une vue d'esprit, c'est effectivement une manière de se donner de la ressource complémentaire. Amis auditeurs, le réflexe à avoir lorsque vous êtes intéressé, vous prenez contact à M. Kouaoubris. Justement, c'est des formations qui se font chaque mois. Et bien sûr, on va rappeler un peu le principe justement de cette formation.
Oui, nous sommes sur les réseaux sociaux et nous sommes sur Internet en général avec un blog. L'identité visuelle, le nom, c'est l'école de la bourse. Donc, l'écoledelabourse.com, c'est pour le blog. L'école de la bourse en tant que page sur Facebook. L'école de la bourse en tant que groupe sur Facebook. Vous verrez que c'est la même identité visuelle. Au niveau du mail aussi, c'est la même chose. L'écoledelabourse@yahoo.com. Donc, à toutes ces adresses, là, vous pouvez nous contacter et passer le cap de l'initiation.
Passer le cap de l'initiation. En tout cas, on va se retrouver la semaine prochaine. Merci de votre attention. Au revoir.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Tous les lundis, après les journaux de 8h et 18h.